I know you're busy, so I'll make this quick.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin.
Bon, faut ce que vous avez déjà entendu, cette musique de sauvage.
One, two, three, four.
Spotzel, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 1, ici Richard Delhomme. Cela faisait plusieurs mois que je cherchais l'ouverture pour repartir dans l'aventure du podcasting. Et enfin, l'opportunité est arrivée. Ce qui signifie que je vais repartir sur un rythme de 2 épisodes par mois, parfois plus, parfois moins. Certains épisodes seront liés au magazine en ligne et au site web. Tous les liens utiles seront dans les infos du podcast et bien entendu, vos avis, retours, suggestions sont les bienvenus. Vous pouvez même vous plaindre en laissant un message ou une question au 06 66 53 46 23. Donc, l'ouverture s'est présentée sous la forme d'un Lillois, moustachu, super balèze en orientation et adepte des longues distances en autonomie. La conversation s'est éternisée, cela fera donc 2 épisodes. Le premier est consacré au mystère de l'orientation, et le second abordera la question épineuse du matériel et couchage sur les épreuves en autonomie. Sans plus attendre donc, Rémi Lequin.
Oui, allô ?
Monsieur Quinquin, bonjour, Richard Delhomme. Allô ?
Oui, allô ?
Allô, oui. Richard Delhomme à l'appareil.
Ah, Richard, ça va ?
Ça va, et toi ? Tu m'entends bien ?
Ouais, bah pas trop, non ?
Ah, moi je capte
pas. Bah, moi je suis à Lille, donc je capte bien. Hein.
Ouais. Eh ben, là ça devrait
aller. Non, là ça va, là.
Ok, eh ben écoute, on va essayer comme ça. Eh ben, si tu es prêt, on va attaquer dans le vif du sujet. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, comment va Poufflette ?
Ouais, ça va, ça va. Ça va, là, ça allait bien. Non, là, ça va. Elle est confiante. Bon, après, elle a plus l'arrivée en tête, quoi. Donc ça, elle s'est enlevé ça de la tête. Pour l'instant, elle avance au jour le jour et elle voit comment ça va. Et... Non, là, elle est bien.
Ouais. La nuit, apparemment, lui a fait du bien.
Ouais, ça lui a fait du bien d'aller dans un gîte, de prendre soin d'elle, de bien se reposer au chaud, parce que c'est vrai que les nuits, on les avait prévenus tous, hein, que les nuits allaient être très très fraîches, et ben ils sont tous partis trop light et ils ont tous froid.
Après deux, trois jours d'épreuve, parce que apparemment c'est pas une course, même si ça y ressemble grandement. tu observes quoi de ton œil de...
Après 2-3 jours d'épreuve, c'est là où tu as passé le stade de la pression, en fait. La pression du départ, elle est partie. Donc là, tu es dans le rythme de la course. Ton corps prend le rythme à la fois de la course, du sommeil, de la bouffe. Enfin, vraiment, c'est tout se met en branle pour que tu sois bien à ton corps. Mais il s'adapte, en fait. Pour que tu sois bien pour la course, pas rien que pour ça, pour donner juste l'énergie qu'il faut pour tenir le coup 15 heures, enfin 10, 12, 15 heures, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que c'est les trois premiers jours sont difficiles pour ça, c'est dur, sont vraiment difficiles, puis le psychologique aussi, il faut prendre le rythme de la souffrance, souffrir sur la durée, c'est pas une grosse souffrance, mais c'est long quoi, c'est ça qui est difficile.
Il y a pas mal d'abandons, quand même, déjà, je trouve. Alors qu'on annonçait de la pluie, et à part, ils n'ont eu que du froid.
Ouais.
Donc, ça t'inspire quoi comme réflexion, cette vague d'abandons après 3 jours ?
Bah là, les abandons, justement, dans ces 3 premiers jours, c'est les personnes qui ne sont pas prêtes. C'est vraiment le manque de préparation. Les gens se lancent, ils disent, y en a qui l'ont fini, c'est que ça doit être simple. Mais non, c'est pas simple, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Parce qu'il faut vraiment, moi, ce que je ressens, mon point de vue, c'est que je me bats tout le temps contre moi-même, quoi. Enfin, c'est au niveau psychologique, au niveau physique, c'est de la gestion. C'est vraiment que de la gestion, parce que c'est hyper extensif. C'est pas intensif du tout.
Oui.
Du coup, c'est vraiment le psychologique à gérer. Et puis après, ceux qui n'ont pas l'habitude aussi physiquement. Donc là, c'est ce qu'on voit. Là, j'ai le pote, là, Rémi, qui a une tendinite, bah la tendinite c'est vraiment le manque de préparation et une mauvaise gestion physique quoi. Ouais. Ouais, on tire trop dedans au début, on croit que ça qu'on va tenir le coup, qu'on peut aller vite longtemps, mais non ça demande de l'entraînement, ça demande de la préparation et c'est ça qui est difficile à gérer, et surtout dans la préparation quoi. Ouais.
Et que dire de l'ami Paul?
Ah bah là c'est un monstre Paul.
C'est dingue.
Non mais Paul. Ouais, Paul, bah lui bah, ce qui est marrant, c'est que c'est un solitaire, tu vois, c'est vraiment un solitaire. Il est totalement indépendant dans sa gestion de course, il n'est pas du tout avec les autres. Ouais. Je l'ai croisé l'an dernier, il m'avait doublé. Et puis lui, il s'entraîne fort. Oui. Il fait beaucoup de fixes. Donc ça, c'est le fixe, moi je l'ai vu cet hiver, c'est vraiment un très très bon entraînement rythme en fait. Pour faire des sorties rythmées, puis pour apprendre à pousser et à avoir un rythme, à tourner rond, à être efficace dans son pédalage, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que ça va être beaucoup. Et puis après, ouais, il gère pas mal. Après, ce que je remarque souvent avec Paul, c'est que c'est un coureur de long cours. C'est qu'il est très fort, il va être très très fort sur 1000 km, mais plus, enfin, il tient pas. C'est ça qui est vraiment drôle, quoi. C'est qu'il y a une TCR, il a essayé, il a abandonné. C'est trop pour lui, quoi. 4000 km, c'était trop. Ah ouais. Mais après, ouais, il gère. Il y a un vélo en plus qui l'aide aussi beaucoup parce qu'il fait 8 kilos son vélo. Ouais. Et en plus, techniquement, il vient du VTT. Donc, il a une très très bonne technique. Donc là-dessus, il est hyper efficace, quoi.
Mais on va en reparler un petit peu tout à l'heure, parce que j'ai fait quand même quelques observations. Et on va en reparler dans la deuxième partie de cette fabuleuse émission. Mais on va partir directement sur la partie qui nous intéresse en premier, et qui s'appelle « Les mystères de l'orientation ». Car comme tu le sais, c'est probablement l'un de mes nombreux points faibles. Ouais. Et voilà, donc ça faisait un moment qu'on devait en parler ensemble. On avait abordé quelques points déjà cet hiver. Mais ouais. J'avais envie d'aborder ça plus en profondeur et mettre ça également en perspective avec des observations faites par Adrien Cartier après la Malténie. D'excellents conseils d'ailleurs, j'ai l'impression. Et voilà. Mais avant cela, parce qu'on a commencé à discuter de choses et d'autres. Peux-tu te présenter, Rémi, qui es-tu ? Déjà, Rémi Quinquin, est-ce que c'est ton vrai nom de famille ?
Non, c'est Rémi Lequin. Mais du coup, Quinquin, c'est un surnom qui est arrivé avec les années, avec les copains de la course d'orientation, je crois, et puis c'est resté. Quoi. C'est devenu mon pseudo sur Facebook et sur Instagram, etc. Quoi. Donc, c'est un pseudo. Voilà, qui Quinquin dans le Nord, c'est une chanson pas paillarde, mais une chanson connue, populaire, très connue, le petit Quinquin, donc c'est pour ça que c'est resté, quoi. Ça me correspond bien.
D'accord, et ben j'irai écouter ça, j'aime beaucoup le folklore local.
Ouais.
Donc qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu manifestement du Nord ?
Oui. Donc, je suis né à Lille, donc j'ai grandi dans le bassin midi, donc d'un père médecin, une mère infirmière. Et donc après avoir grandi dans le bassin midi, j'ai fait des études de géographie. Donc, j'ai toujours fait du sport depuis le lycée. Je faisais du raid de multisport pendant quelques années. Une fois à l'université, j'ai commencé la course d'orientation parce que moi, j'ai toujours été passionné par les cartes. C'est ce qui m'a orienté vers la géographie. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est un sport basé sur la carte. De me dire qu'on peut, utiliser progresser dans l'espace et créer sa progression au fur et à mesure, je trouvais ça fabuleux. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis mis à la course d'orientation. Parce que je trouvais ça vraiment un peu un sport intéressant. Et j'ai commencé assez tardivement, parce que j'ai commencé le raid à 16 ans. Mais la course d'orientation, j'ai commencé à 23 ans. Donc c'est super tard. Mais très rapidement, j'ai eu un bon niveau. J'ai progressé très vite parce que j'avais un gros bagage, cartographique, de visualisation dans l'espace, d'abstraction. Donc l'abstraction, c'est faire le rapport entre la carte et le terrain. Mmh. Donc savoir retirer les éléments sur la carte, qui sont sur le terrain et inversement, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a bien aidé. Donc, une bonne étude de géographie, toujours en faisant la présentation. J'ai fait deux doctorats que j'ai pas fini, ni l'un ni l'autre. Et puis, à la suite de ça, bon, il y a eu, voilà, des déboires universitaires, etc. J'étais jeune chercheur pendant longtemps. Donc, après cette phase-là, j'ai fait de l'archéologie. Donc, j'étais géographe qui travaillait pour dans l'archéologie. Donc mon travail, pour faire simple, c'était en fait d'étudier l'impact de l'homme dans l'environnement. Donc c'est vraiment, j'ai toujours été centré sur l'environnement, donc géographie environnementale, mais sur le temps long. Donc retrouver la trace de l'homme dans l'environnement, donc toujours des supports cartographiques, des fouilles, du terrain, parce que c'est vrai que le terrain, ça m'a toujours passionné. Donc suite à cela, il y a quelques années, j'avais plus trop de travail parce que bon, l'archéologie c'est un petit peu un milieu bouché. Puis moi j'étais hyper spécialisé, donc c'est pas facile. Donc là-dessus, j'ai monté ma boîte. Donc comme je faisais la concentration depuis quelques années, je faisais aussi, je m'étais mis au VTT orientation où j'avais un assez bon niveau. Ben j'ai commencé à faire des cartes pour mon club, donc bénévolement. Donc mon club me payait à la journée, enfin au déplacement quoi, globalement. Et vu qu'il y avait de la demande qui arrivait, bah, j'ai un ami qui avait monté sa boîte de vente de matériel de sport qui me dit, bah, ce serait bien que tu montes ta boîte parce que moi, je vais bien te faire des cartes, mais il me faut des factures. Du coup, je fais, bon, bah, il y a le statut d'entrepreneur qui existe. Bon, bah, je me lance, quoi. Donc, j'ai commencé auto-entrepreneur il y a 5 ans, donc en novembre 2014. Et puis, bah, là, aujourd'hui, ça marche. Ça fait 5 ans que j'en vis et c'est quasiment 90% pour la consultation. Et puis ça marche très bien, enfin ça marche bien. Maintenant aujourd'hui, les 2 premières années étaient difficiles parce qu'il faut se mettre dans un rythme, il faut apprendre à gérer. Et maintenant ça va, j'ai mon rythme de travail et j'arrive à gérer ce qui est bien, le sport et le boulot. Donc ça c'est bien.
Donc quand je vois tes activités sur Strava où tu fais des relevés, c'est dans ce cadre-là.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc c'est des cartes de forêt et de ville. Donc, pour les cartes de forêt, ce qui est simple, une carte de concentration, c'est entre 2 et 5 fois plus précis qu'une carte hygiène, une carte topographique. Du coup, il faut être très précis. Tous les éléments supérieurs, dont la plus petite longueur est supérieure à 1 mètre. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui figurent sur la carte. Donc, par exemple, une butte, dès qu'elle fait plus d'un mètre, elle est sur la carte. Une souche de plus d'un mètre, elle est sur la carte. Les fossés, les types de végétation, tout ce qu'ils aient, pas la topographie. Topographie, c'est le plus gros boulot. C'est pour ça que ma boîte s'appelle IsoHips. Donc, IsoHips, c'est le nom scientifique de courbe de niveau, en fait. Donc, une courbe qui joint les points de même altitude. Donc, c'était pour dire que je montais ma boîte, mais que j'avais un bagage scientifique derrière, que j'allais pas faire une boîte carte au quinquin, parce que c'était pas le but. Non, c'est vraiment, j'ai une formation scientifique, je suis géographe, ce qui est rare dans les cartographes, parce qu'on apprend beaucoup sur le terrain, mais moi j'ai un bagage scientifique qui me permet, par rapport aux autres, d'avoir des techniques et des méthodes qui me permettent de gagner du temps dans le travail. C'est pour ça que ça marche bien, parce que je travaille vite.
Ouais.
C'est surtout ça qui marche bien.
C'est très apprécié.
Ouais.
Savoir tenir les délais, c'est quasiment une compétence rare de nos jours.
Ouais.
Et comment tu en es venu au vélo?
Alors, le vélo, oui, j'en ai fait quand j'étais en raid depuis 2000. Depuis 2000-2001, j'ai commencé en raid avec le VTT. Après, j'ai fait surtout de la course à pied, donc j'ai un peu laissé le vélo de côté. J'ai repris une période où en course à pied, je progressais plus. Donc, j'avais un peu... Bon, je suis un compétiteur, hein, donc j'aime bien la compétition. J'aime bien me confronter aux autres. Pas me rabaisser les autres. C'est vraiment un esprit de compétition. J'ai beaucoup de respect dans le sport pour les autres, pour mes autres concurrents. C'est pas parce que je suis plus fort qu'une personne à un moment donné que je vaux mieux qu'elle. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de respect là-dessus. Mais donc il y a un moment, moi je sentais plus, je prenais plus de plaisir parce que je progressais plus à pied. Et je me suis mis au VTT, orientation. Je savais que j'étais fort avant un vélo. Et, bon, il n'y a pas de raison que j'aime bien la orientation, j'aime bien le vélo. J'ai pas le temps de lier les deux sur du VTT orientation. Et là, j'ai commencé, dès mes premières courses, j'ai été très bon. Donc, je faisais des bonnes places en national. jusque ma meilleure place. Je crois que c'est une troisième place sur un championnat de France de sprint. Donc à 10 secondes du non, à 2 secondes du deuxième. Donc presque vice-champion de France. Ouais. Et non, voilà. Et au début, je faisais vraiment que du VTT orientation. Ça me plaisait bien. J'aimais bien cet aspect vélo et carte. Parce que la lecture par rapport à la concentration, l'orientation est plus simple. Parce que là, on sort pas des parcelles de forêt, on reste sur les chemins vraiment. C'est l'orientation de carrefour, comme on dit. Mais la lecture est plus difficile parce qu'on est à vélo, ça bouge beaucoup, on va vite, on va beaucoup plus vite. Donc, c'est un autre type d'orientation. Donc, voilà, j'ai fait ça quelques années. Après, je me suis blessé en 2014. Septembre 2014, grosse blessure au genou. J'étais arrêté un an et demi. Ouais. Et j'ai repris tout doucement. Avec la randonnée, avec un peu de course, un peu de vélo. J'ai commencé à faire beaucoup de vélo en ville parce que je me suis installé à Lille dans la même période. Et après ça, bah, j'ai vu qu'il y avait la French Divide qui était apparue à Lille. Donc un Lillois qui avait créé ça, que je connaissais pas, Samuel Bécu. Donc j'ai vu la première épreuve. J'ai pas pu l'inscrire parce que c'était trop juste financièrement. Mais là, je me suis dit que j'allais le faire la deuxième année. Donc la deuxième année, je m'inscris un peu tardivement quand même, mais je m'inscris et bah, je me suis préparé pour ça. Et c'est là où j'ai découvert la longue distance. La longue distance et l'ultra en bikepacking et j'ai adoré quoi. J'ai adoré ça. Les divides, c'était une très très bonne expérience, très positive, une vie difficile, vraiment difficile. Mais un autre monde, une autre mentalité, les épreuves et non les courses sans assistance, c'est vraiment intéressant.
Oui.
Ben ouais.
À la Lumberjack, je t'avais fait la réflexion sur un petit talus. J'étais derrière toi quand t'as sauté sur ton vélo. Et après, on en a reparlé.
Ouais.
Et je t'ai dit, toi, t'es un mec qui a fait du cyclocross. Parce qu'à ta technique, tu avais vraiment la technique parfaite de ressauter sur le vélo, la flexion de tes genoux à l'arrière était vraiment celle d'un crosseur. Ouais. Tu en as fait un petit peu ou pas?
Bah non, en fait, pas directement. En fait, c'était quand je faisais du VTT orientation. J'avais commencé des formations pour être moniteur, donc entraîneur en VTT, enfin toutes les formations nationales en fait qui existent au sein de la Fédération française de l'orientation. Et du coup, on a eu deux week-ends où on a beaucoup travaillé la technique. Et puis ça, c'est la technique. Bon, en VTT orientation, on a des phases où on doit poinçonner parce que c'est des checkpoints à poinçonner.
Oui.
Et c'est un poinçonnage électronique, donc il faut ralentir. Et on a une puce qui doit passer sur un boîtier de contrôle. Et pour ça, il faut ralentir, mais sans trop ralentir pour pas perdre de temps. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus, de travail à basse vitesse. Donc ça, j'ai beaucoup travaillé cette technique-là. Et aussi du travail de cyclocross, parce que quand on est en compétition, parfois, on a des arbres en travers d'un chemin.
Et,
il faut apprendre à le passer sans perdre de vitesse. Donc, descendre du vélo en roulant, sauter avec le vélo et remonter sur le vélo. Donc, des techniques de cyclocross que j'ai appris justement sur ces week-ends de formation et qui me servent toujours.
Elles sont très, très importantes.
Ouais.
Que tu as entretenu, que tu as travaillé, je suppose, après ces formations.
Ah oui, je travaille. La technique, je la travaille tout le temps. C'est vraiment, pour moi, c'est un acquis.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. C'est bien d'avoir la technique parce que sur des épreuves de longue distance, on travaille sur une régularité.
Ouais.
Et quand je vois, moi, je suis pas très rapide, je suis pas le plus rapide, je suis pas le plus puissant, je suis pas le plus, je sais que voilà. Mais par contre, je suis très régulier. Mmh. Et entre rouler sur une route propre, un chemin ou un chemin technique, ma vitesse va varier peu parce que je travaille beaucoup la technique justement pour être fort dans le technique. Pour être fort, justement, perdre le moins de temps possible quand c'est difficile.
Ouais.
Donc moi, je sais que là, je l'ai vu sur l'Italie Divide, dès qu'il va y avoir un passage technique, je vais gagner du temps et je vais doubler du monde. Parce que je vais être régulier là-dessus et que je m'épuise moins, parce que quand on a de la technique, on se fatigue moins. C'est vrai que c'est un avantage en ultra.
Je sais.
Donc oui, ça se travaille. Donc ça se travaille et c'est hyper utile.
D'accord. Donc, tes conseils pour l'orientation en ultra, on va commencer par le GPS. Quel modèle utilises-tu? Comment il est réglé? Et est-ce qu'il est réglé, on va dire, usine? Ou est-ce qu'il y a deux, trois petites finasseries? Et également, est-ce que la cartographie est celle d'origine?
Ouais, alors le GPS, alors moi j'ai deux GPS que j'utilise en vélo principalement. C'est GPS Itrex 30 Touch que j'avais avant sur un Frank Divide. Et là, je suis descendu en gamme pour un Itrex 20X qui est plus simple, plus fiable. Donc là, c'est vraiment, nous, on va jouer beaucoup sur la fiabilité. Quand on voit, quand je regarde les grands spécialistes ultra, ils ont tous ce GPS, le 20 ou le 30X, donc des Itrex, donc des GPS d'outdoor, donc pas spécifique vélo. Et en fait, moi, le GPS, par rapport à l'origine, j'ai un fond de carte un bon fond de carte que je récupère sur Internet, qui sont gratuits, qui sont mis à jour. C'est les fonds de carte OpenStreetMap. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont précis. La carte en général, c'est toujours un équilibre qu'il faut avoir entre la quantité d'informations et la lisibilité. Donc, oui. Plus on a d'informations, moins c'est lisible. Moins on a d'informations, plus c'est lisible, mais il y a moins d'informations. Donc, c'est toujours un équilibre entre les deux. Je trouve que les OpenStreetMap sont bien faits pour ça. Et en fait, dans le GPS, moi, c'est l'inverse. Je supprime des programmes, je supprime tout le guidage, je supprime. La seule chose dont j'ai besoin, c'est un bon fond de carte et la trace. Ouais. Le reste, je m'en fous. Le reste, je l'utilise pas. Non, moi, le GPS me sert vraiment qu'à ça.
Donc, tu désactives le guidage. Et là, on en revient au fameux conseil que m'avait donné Adrien Cartier suite à la Malténie. Et mes petits déboires dans le bourbier, il m'avait dit surtout tu désactives le guidage et tu regardes ta carte. Et suite à nos épreuves qu'on a fait cet hiver ensemble, j'avais gardé l'idée d'anticiper, donc je regardais beaucoup la carte et je voyais venir les changements de direction. Ouais. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'ai trouvé un mec encore plus mauvais que moi parce que je lui ai indiqué tous les changements de direction. Il partait comme une bourrique à 100 mètres devant moi et je le sifflais à chaque fois pour qu'il revienne. Donc, perte d'énergie colossale. Et là, par contre, ça s'est vraiment gâté, évidemment, dans les terrils. Où là, là, j'ai perdu patience. Donc, désactiver le guidage.
Le guidage.
Est-ce que tu modifies le zoom quand tu dis anticiper la trace et anticiper les changements de direction? Ça veut dire que tu les vois arriver à peu près combien de temps avant? Et comment tu procèdes entre regarder le GPS et regarder le terrain?
Je varie les niveaux de zoom. Bon, pour ceux qui connaissent l'Itrex, en fait, il y a une petite échelle en bas à gauche. Donc cette petite échelle, elle fait soit 80 mètres, 120 mètres. Donc ça fait 1 cm sur le GPS et ça correspond à 120 mètres, enfin 80 mètres sur le terrain, 120 mètres sur le terrain, 200 mètres. Oui. Donc moi, quand c'est dans les chemins, quand c'est roulant, je suis à 120 mètres. Donc pour cette échelle, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Bon, ça pourrait se calculer facilement, mais bon, on n'en a pas besoin. Et après, dès que je suis en ville ou bien dès que c'est une zone plus technique, comme là, la Malténie dans les terrils, je descends à 80 mètres, voire à 50 mètres. Et en fait, sur ce que j'affiche, je connais toujours, j'ai toujours les intersections que je vois où ça va tourner, je les ai toujours en tête. Je sais que la prochaine intersection, ce sera à gauche, à droite, deuxième à gauche, deuxième à droite. Et si j'en vois plusieurs qui sont rapprochés, je mémorise les deux, trois, enfin pas plus, après je fais beaucoup. Mais voilà, j'anticipe toujours ce que je vois sur le GPS. Toujours. Comme ça aussi, ça m'aide beaucoup en ultra parce que ça permet de gagner en fluidité. Oui. Parce que quand on se trompe de chemin, on doit faire demi-tour, on doit en retrouver le chemin. C'est une perte de temps. Mais il y en a le vainqueur, puisque c'est pas une course, mais celui qui a fait le meilleur temps sur un Frenzy Divide, donc Harold, c'est ce qu'il disait. Il dit, faut éviter de cumuler les petites erreurs. Il faut éviter les grosses erreurs, bien sûr, mais les petites erreurs, plus on les accumule, et plus c'est lourd, et plus ça nous pèse dessus. Donc c'est ça, le anticiper. Et puis, pas d'erreur d'orientation. Après, c'est pas toujours évident, parce que quand ça se coule, quand ça descend, souvent quand ça descend, on se laisse aller, puis après, il faut remonter. Donc ça aussi, là c'est encore plus perte de temps, puis perte d'énergie. Et j'ai vu sur la Malténie que parfois il y avait des groupes, et moi j'étais en fin de peloton. Quand on est parti, j'étais en queue du premier peloton. Et puis, bah, ils sont à 20 à se tromper. Bah, moi, je prends le bon truc et je me retrouve en tête du peloton, du coup.
Mais oui.
Et c'est arrivé 3-4 fois comme ça.
Mais donc, ça, c'est... Dans le cas des terrils, bon, on en reparlera, on refera peut-être un épisode à ce moment-là ou une vidéo, parce qu'apparemment, j'ai l'obligation de venir faire un stage à Lille. Comment tu mémorisais vraiment, parce que sur certains passages, il y avait plusieurs options possibles.
J'entends très très mal là.
Ah, mince.
Ouais.
Oh. Est-ce que ça va mieux là?
C'est assuré. Là, ça va un peu mieux. Ouais.
D'accord.
Allô?
Allô, bonjour, Richard Delhomme.
Oui. Attends deux secondes. Hop. Je vous laisse ça ici. Je reviens tout de suite. Oui. Ouais, c'est bon.
Ouais, bon, ça y est. J'ai déménagé dans ma chambre.
Ah ouais.
Voilà.
C'est
j'ai
mieux.
La porte-fenêtre. Le téléphone est prêt. Et je me suis même mis en partage de connexion aussi parce que finalement, finalement, ça marche pas si bien que ça.
Ouais, okay. Ici.
Donc voilà. Alors, j'en étais à te demander comment tu faisais dans les terrils qui sont vraiment qui offrent beaucoup d'options au même moment en fait.
Ouais. Bah ça c'est vraiment là c'est vraiment la navigation comme on dit en course d'orientation. En fait, en course d'orientation, on a trois niveaux d'orientation. On a le niveau vert, orange et rouge. Ouais. Donc vert, c'est quand c'est simple, la première intersection est dans 100 mètres, donc là il n'y a pas de problème. Orange, c'est quand ça devient un peu plus complexe. Et rouge, donc là, les terrils, c'est vraiment du rouge où là, il faut vraiment être fin. Donc là, moi, on a toujours une boussole dans la tête, enfin, globalement, et en fait, on sait, on voit la configuration des chemins et par où on va prendre. Donc ça, il faut, là, pour la trace, ça, c'est parfois compliqué parce qu'il faut, en fait, il faut bien suivre la trace, avoir un bon GPS qui se met bien, qui s'oriente bien. Mmh. Tu vois, par rapport à notre direction, et puis bah, après, ouais, c'est de l'anticipation et de la navigation, quoi. C'est vraiment du travail de navigation, où là, il faut vraiment être prudent, anticiper, hop, regarder, pas s'embarquer à la tête baissée, si on n'importe quel chemin, là, c'est vraiment, faut serrer les fesses, quoi, et puis être précis.
Ouais. Est-ce que ça signifie que également tu réduis un tout petit peu ton allure?
Oui, ça impose justement ces niveaux vert, jaune, vert, orange, rouge. C'est vraiment des allures différentes, avec l'allure change et la vigilance change aussi. Donc quand on est en rouge, on est vraiment lent, mais avec toujours, comme on dit, une tête radar. Donc on cherche le chemin sur lequel on va s'engager.
Ouais.
Et hop, on anticipe tout le temps la prochaine intersection.
D'accord. Quand toi, bon, c'est finalement assez facile parce que tu as un bon bagage.
Oui.
Mais pour nous, mortels, simples mortels, comment on peut travailler cet aspect-là? Parce que, bon, je me suis préparé des traces, tu vois, dans le printemps, mais ce n'est pas vraiment de l'orientation parce qu'il y a, y a juste à suivre un petit peu.
Ouais, c'est ça, c'est du suivi d'itinéraire, quoi. Donc, non, ce qu'il faut après, c'est pratiquer. Ce que je vois souvent, c'est que plus on pratique sur des terrains différents, plus on va pouvoir s'adapter facilement. C'est ça, c'est la capacité d'adaptation qui vient avec l'expérience. C'est vraiment de l'expérience par la pratique.
Ouais.
La pratique qui va faire beaucoup de choses et vraiment voir des terrains différents. Si on est toujours sur le même type de terrain, dès qu'on va changer de type de terrain, on va être perturbé et puis on va s'emballer. Il y a aussi ça, une fois qu'on a de l'expérience, on est plus vigilant, moins stressé et ça va être plus fluide, quoi. Ça joue beaucoup, ouais.
Et pour la Highland, tu prépares ça d'une manière spécifique?
Là ça va être spécifique. L'avantage c'est qu'on j'étais au Pays de Galles, avec Capucine, donc ma copine, on a été au Pays de Galles en octobre, donc on a vu un peu les terrains qu'on va retrouver là-bas, hein. Ça reste très proche, même si la Écosse est bien plus de dénivelé. Mais la préparation c'est ça, c'est pour me préparer moi techniquement en technique vélo. C'est l'entraînement physique de l'ultra, je le garde, c'est toujours le même, parce que là ça va être de la longue distance, ça va être 15 heures sur le vélo par jour, tous les jours, dans des chemins difficiles. Mais là, il y a une préparation spécifique où je vais faire beaucoup de gainage. Parce que là, il y aura beaucoup de poussage de vélo, donc travail du haut du corps. Mmh. Donc pour le poussage et pour le encaisser les chocs. Après, sur le travail technique, j'ai été testé là, début mars, le vélo, parce que je me suis fait mon vélo. Et pour voir s'il était capable de faire les Land Trail, bah, j'ai été faire les Cévennes. Donc en plein mois de mars, avec la neige. Donc c'était vraiment un test sur des terrains. Je voulais retrouver des terrains assez équivalents à l'Écosse. Donc au niveau de la cyclabilité, de la rugosité, disons, du terrain. De la cyclabilité, donc comment ça va rouler. Donc là, c'est des terrains qui ne roulaient pas du tout. Là, par 100 km, j'avais à peu près 3000 mètres de dénivelé. Mmh. Donc c'est ce que je vais retrouver en Écosse, un peu moins même en Écosse. Donc là, au Cévennes, j'ai vraiment tapé haut. Ou là, en Cévennes, ouais, dans les Cévennes, je devais pousser le vélo dans les montées, pousser le vélo dans les descentes, parce que ça roulait vraiment pas. C'était de la caillasse partout, des marches, des grosses marches, des pierres qui roulent. Mais voilà, ça fait partie des tests pour moi. Et d'avoir pu encaisser des journées complètes. En plus, j'ai eu un temps dégueulasse. Il faisait moins de 5 degrés tous les jours et de la pluie. Mmh. Bah voilà, c'est bien. Ça me met en condition. C'est des conditions qui étaient un peu pires. Bon, c'était pas long, c'était 2 jours et demi. Mais voilà, j'ai vu que le vélo en était capable, que moi ça allait. Donc, c'est bon. Là-dessus, c'est du travail technique. Après, maintenant, il faut maintenir la forme jusque l'Island Trail.
D'accord. Là, ça a fait une petite parenthèse par rapport à l'orientation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Sur l'orientation ?
Ouais.
Bah, bon, c'est vraiment par la pratique. Hein. Il faut pratiquer et voilà, faut se faire de l'expérience et essayer sur différents types de terrains, quitte à faire des choses vraiment très, très, très techniques sur des petites zones. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est m'entraîner sur des petites zones où il y a énormément de chemins. Donc c'est l'habitude, quoi. C'est comme ça, on s'habitue à travailler sur ces zones techniques. Après, on est plus à l'aise quand on retombe sur une zone dégueulasse. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est confronté à... Enfin, plus l'entraînement sera compliqué, plus la compétition sera simple.
Oui.
C'est ça. C'est exactement ça. Il faut faire des choses complexes et se mettre... repousser ses limites. C'est ce qu'on dit. Sortir de sa zone de confort. Pas faire que des choses faciles, parce que c'est sûr que faire des choses faciles, c'est facile, mais une fois qu'on est confronté à des choses difficiles, là c'est dur et le moral en prend un coup. Et en ultra, le moral, il est primordial.
Oui. Ça veut dire quoi travailler sur des. Parce que du coup, c'est quelque chose que je vais travailler intensément dans les semaines à venir.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. Ça veut dire quoi travailler sur des zones avec plein de chemins ? Concrètement sur le terrain, tu te dis, on se planifie une séance, quelle qu'elle soit.
Ouais.
C'est quoi le contenu de cette séance et comment on la prépare ?
C'est ce qu'on dit en consultation. Nous, en fait, on a une routine. Il faut avoir sa routine d'orientation. C'est-à-dire que la différence en ultra, c'est qu'on ne va pas chercher de checkpoint, mais ce qu'il faut, c'est pas louper une intersection. Donc, apprendre à anticiper l'intersection, et une fois qu'on voit l'intersection, il faut prendre l'habitude de passer à la suivante. Celle-là, on l'a, mais avant d'y arriver, une fois qu'on l'a vue, on sait qu'on va tourner là, et ben maintenant on pense à la suite.
D'accord.
Toujours avoir un, c'est ça, c'est 100, 150, 200 mètres dans le futur. Toujours comme ça. Toujours avoir un temps d'avance.
Ce qui veut dire que tu prépares une trace avant.
Oui. Donc travailler sur une trace, se faire un parcours dans une zone où il y a énormément de chemins, un parc, il y en a beaucoup hein, dans les parcs ou dans les bases de loisirs, etc. Faire un truc hyper difficile ou qui zigzague, hein, même après le chemin, la trace qui se recoupe aussi, ça peut être un bon entraînement. Mmh. Ouais, comme ça, c'est hop, anticipation, puis apprendre. Justement, hop, on va faire beaucoup de changements d'orientation sur un petit temps, comme ça, après, c'est avoir une routine de navigation. C'est ça.
D'accord.
Pour être propre.
Comment tu prépares ta trace ?
Ma trace, moi, je trace depuis quelques temps, je trace sur Komoot, principalement. Donc, souvent, je jette un œil à la carte IGN. C'est ce que je faisais avant, c'était sur carte IGN, et après, je traçais sur d'autres logiciels. Maintenant, je trace sur Komoot où il y a une bonne base de cartes. Donc, puis l'avantage, comme nous, on est à côté de la Belgique, la carte IGN, elle s'arrête à la frontière. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, Komoot, c'est bien, c'est que c'est international. Donc, puis Souvent, ce que je fais, c'est que je veux aller, soit je définis un endroit où je veux aller, soit je définis un nombre de kilomètres. Et je vais me poser un point, je vais voir ce qu'il va me proposer comme parcours, et après je vais poser d'autres points pour faire soit une boucle, soit un itinéraire en long, quoi. Et un retour par ailleurs ensuite. Mais ouais, je fais confiance à Komoot, et puis comme ça permet de découvrir des chemins aussi. C'est vrai que c'est assez plaisant.
Voilà, la dernière fois que je lui ai fait confiance dans les Alpes de Haute-Provence, j'ai fait un passage de 3 km de suite.
Ouais, bah je voilà, il y a ça aussi qui peut arriver. ça peut arriver aussi.
Également, là, je suis en train de préparer un truc, en fait, une petite sortie gravel autour de chez moi. Pour être tout à fait honnête, j'aimerais faire arrivée et départ depuis mon garage. Départ et arrivée, plus exactement, avec poulet frites et bière à volonté. Il faut quand même faire un truc marrant. Et donc j'ai commencé à faire la première partie de la trace. Et en fait, j'avance par essais successifs, erreurs et réitérations. Comment tu mixes plusieurs bouts de traces? Est-ce qu'il existe des outils qui nous permettraient de faire ça plus simple que OpenRunner?
Non, pas vraiment. Enfin, j'ai jamais trouvé vraiment. Il y en a qui ont des techniques où ils affichent toutes les traces sur une page, par exemple un My Maps de Google. On peut afficher différents GPX et après sur un autre écran ou sur une autre fenêtre, ils vont tracer en regardant ça en parallèle. Donc c'est vrai qu'on peut faire comme ça, mais après, je connais pas trop de techniques. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident.
Donc on a pas d'outils aujourd'hui qui nous permettrait de faire un genre de Photoshop du GPX, de se dire je prends ce petit bout, je coupe, je colle.
C'est un peu possible avec Basecamp, où on peut assembler des GPX qui se touchent. Mais après Basecamp il est complexe, hein, parce qu'en plus il faut un fond de carte, et pour un fond de carte il faut lui brancher un GPS qui a un fond de carte. Enfin, après, on peut créer un faux GPS avec sur une clé USB, mais bon, ça c'est autre chose. Non, c'est vrai qu'à part Basecamp, pour assembler des GPX, je connais pas grand chose.
Ça reste bien compliqué quand même pour 2019.
C'est vrai que c'est compliqué de faire ça.
D'accord. Bon, je vais continuer ma méthode. J'expérimente, j'explore, je mémorise des bouts de traces. Et après, je refais la boucle, tu sais, pour. Avoir le truc, le package complet, ça reste un bon entraînement.
Ça fait travailler.
Est-ce que tu veux conclure sur l'orientation?
Non, là c'est déjà pas mal, j'ai dit pas mal de choses.
Bon, on va conclure avec ça alors.
Ouais.